Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, la grâce, la miséricorde et la paix vous sont données par Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère. Nous nous présentons ensemble devant Dieu avec le premier chant que vous trouverez, le psaume 65, donc dans votre cantique « Nos cœurs te chantent ». Nous nous recueillons dans la contemplation et la prière. Notre Père, en un soir que ce jeudi nous rappelle, ton Fils a lavé les pieds de ses disciples, lui le Seigneur et le Maître, il s'est fait serviteur. Ton Fils a donné les promesses de la vie éternelle, ton Fils a rompu le pain et offert la coupe. Seigneur, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est la même voix, ta voix, qui nous invite. C'est la même main, ta main, qui nous tend le pain de vie. C'est la même table, une table autour de laquelle il y a place pour tous et dont nul n'est exclu. C'est le même pain, le pain de vie que Jésus appelle « mon corps, rompu pour vous ». C'est la même coupe de vin que Jésus appelle « mon sang, sang versé pour vous, sang de la nouvelle alliance ». Et c'est la même prière, la prière qui n'a jamais cessé pour la fidélité de tes disciples et pour l'unité de tous dans ton corps. C'est le même amour, l'amour qui va jusqu'à donner sa vie pour ceux qui l'aiment. Oui Seigneur, toi qui es le même, à nous qui sommes les mêmes, faibles et pécheurs, pleins d'espérance, pleins d'amour aussi, accorde ta grâce et ton pardon. Le même pardon, la même grâce pour chacun de tes enfants, la même foi, la même joie et la même espérance en ton royaume qui est déjà là, au-dedans de nous. Amen. Alors pour ce jeudi saint, nous allons suivre le récit dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26. Donc les récits qui correspondent dans la dernière semaine de Jésus, au jeudi. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se rassemblèrent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils résolurent de se saisir de Jésus par la ruse et de le faire mourir. Toutefois, ils disaient, pas en pleine fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui. Elle tenait un vase d'albâtre plein d'un parfum de grand prix, et pendant qu'il se trouvait à table, elle répandit le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus s'en aperçut et leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a accompli une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. En vérité, je vous le dis, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, bonne nouvelle de l'Évangile, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et il dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Alors ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Et depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus « Où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel et dites-lui « Le maître dit « Mon temps est proche, c'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Et pendant qu'il mangeait, il dit « En vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous me livrera. » Ils furent alors profondément attristés et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Et il répondit « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme n'être jamais né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Et Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit. Il le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Et alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit, « Quand même tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi une occasion de chute. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Alors je vous propose de garder un temps de méditation après cette lecture continue donc de ce chapitre de l'Évangile selon Matthieu, de chanter le cantique numéro 303 dans ce recueil de chants, « J'ai soif de ta présence », les trois strophes, 303. Béni sois-tu, d'éternité en éternité, éternel notre Dieu. À toi, éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur terre t'appartient. À toi, éternel, le règne, la première place dans l'univers. Car c'est de toi que viennent la bonté et la vie. C'est toi le Seigneur de l'univers et tout, par ta main, grandit et prend force, beauté et vie. Et maintenant, ô notre Dieu, nous voici pour nous ouvrir à toi et pour célébrer l'éclat de ta parole. Certaines personnes disent qu'on ne sait rien, finalement, du Jésus historique. Alors, oui et non, en fait. Il y a quand même des choses que nous savons sur l'histoire de cet homme, Jésus. Même si ces évangiles qui nous sont chers sont des prédications plus que des récits historiques, bien entendu, il y a quand même des choses, à mon avis, dont nous pouvons être sûrs. Par exemple, la fin. Le héros, lamentablement abandonné et même trahi par ses plus proches lieutenants, puis exécuté de façon infamante, quasi grotesque, ça ne s'invente pas. Et ça s'invente encore moins quelques dizaines d'années après la mort de Jésus, à une époque, à l'époque de la rédaction de ces textes, finalement, où les disciples de Jésus, l'Église naissante, essayent de se structurer autour des derniers souvenirs, des mémoires de ces apôtres qui commencent à disparaître, première génération qui commence à disparaître. Ils ne pourraient pas inventer des récits avec des apôtres aussi nuls, c'est contre-performant. Et donc, à mon avis, ils reprennent des épisodes historiques, certains pour leur intérêt spirituel, d'autres peut-être embarrassants, donc qui sont incontournables finalement, comme ces lamentables apôtres à la fin de leur carrière de disciples suivant Jésus, pour essayer d'en tirer quelque chose quand même. Alors le champion de ces apôtres du Jeudi Saint, de ces apôtres de la trahison de leur maître finalement, c'est Judas. Judas a le premier rôle dans les quatre évangiles, et puis dans bien des évangiles apocryphes aussi. Sauf qu'il existe plusieurs interprétations, finalement, plusieurs façons de comprendre cet homme, plusieurs fins possibles aussi. Et donc à partir finalement d'un épisode historique, ils essayent de tirer chacun à sa façon une leçon pour nous, une leçon pour le lecteur, une prédication pour nous aider à réfléchir sur notre vie et à nous ouvrir sur le salut que Dieu offre en Jésus-Christ. Alors cette diversité, à mon avis, effectivement, que l'on voit de lecture du cas Judas, de la personne de Judas, ça dit à la fois l'existence historique, finalement, de M. Judas trahissant son maître, son espérance, Jésus. Et puis ça dit aussi, finalement, la vérité des évangiles, le sens de cette vérité, c'est-à-dire qu'avec un épisode gênant, il se transforme en une prédication pour nous élever. Et effectivement, comme nous l'avons entendu dans l'évangile selon Matthieu, mais c'est aussi dans d'autres des évangiles, les 12 apôtres se disent « Seigneur, est-ce moi celui qui trahit ? Est-ce moi Judas, finalement ?» Donc quand Jésus annonce qu'il y a de la trahison dans l'air, tous sauf peut-être l'apôtre Pierre, le fanfaron, comme toujours, qui est le premier à bien faire, le premier à oser, le premier à se lancer pour marcher sur l'eau. Il est aussi le premier à ne pas douter une seconde de sa force et puis à renier Jésus. Mais sinon, pour les autres, le Seigneur, est-ce moi, des apôtres, nous invite à l'introspection, nous invite à nous poser la question. C'est pas seulement Judas qui est satanique, mais tous savent qu'ils ne sont pas parfaits, ou presque tous, puisqu'à ce moment-là, Pierre l'est pas encore bien percuté, peut-être. Il le comprendra un peu après, mais en tout cas, voilà, tous savent, ou à peu près, qu'ils ne sont pas parfaits, et qu'il y a, en fait, du Judas en moi, qu'il y a du satanique en nous. Et c'est une réalité qui nous précède, voilà. Alors, bien sûr, ce n'est pas nous qui avons crucifié Jésus, il ne faut pas non plus exagérer, on n'est pas non plus la cause de la mort des dinosaures par notre péché. Ce n'est pas non plus les Juifs qui ont crucifié Jésus, ce n'est pas non plus les Romains, les habitants de Rome, ils n'en sont, nous n'en sommes, ni responsables, ni coupables. Mais simplement, la question qui est posée à travers cela, ce n'est pas de nous culpabiliser, bien entendu, mais c'est de mesurer lucidement qu'est-ce qu'il peut y avoir de Judas en nous. Et nous pouvons faire cette introspection. Alors, ce n'est pas toujours facile d'être lucide sur son propre cas. Nous sommes parfois trop sévères sur nous-mêmes, nous désespérons. Parfois, comme Judas à la fin de l'histoire, peut-être. Parfois, pas assez lucide, peut-être comme Pierre au début de l'histoire. Et c'est pourquoi nous pouvons avoir besoin, comme les disciples ici, de faire cette recherche, de nous poser cette question dans la prière, comme ils le font en demandant à Jésus, « Seigneur, est-ce moi ?» Ou plutôt, peut-être, « En quoi est-ce moi, le Judas de l'histoire ?» De le faire dans la prière, le demandant à Dieu pour qu'il nous éclaire. Et nous pouvons justement le faire comme ses disciples, parce qu'ils savent très bien que Jésus est bienveillant, que Jésus nous connaît mieux que nous ne connaissons nous-mêmes, comme nous le voyons dans le début de l'évangile de Jean, quand il parle de Nicodème, et puis qu'il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, et il assume ce que nous sommes, le bien et le moins bien, et nous aimant, et venant à nous, et nous nourrissant de sa propre main, avec son pain, avec son vin, avec ses paroles et avec sa vie. Alors, quelles réflexions nous sont proposées par les évangiles à l'occasion de la triste histoire du disciple Judas ? Alors, dans l'évangile selon Luc, pour commencer, Judas se déconvertit. Mais c'est vrai que l'évangile selon Luc est un peu le champion de la liberté offerte à la personne humaine de se convertir ou de se déconvertir, de changer, d'évoluer, par choix personnel. Et donc au début, Judas, comme les autres, comme les apôtres, comme les femmes qui suivent aussi Jésus, est plein d'enthousiasme pour la promesse d'un monde nouveau, pour un Messie en train de venir, de se manifester, pour apporter un salut décisif de Dieu pour l'humanité. Et puis Judas suit Jésus pendant 3 ans, aux 4 coins du pays finalement, même en dehors, à plein temps, avec la pluie, avec la tempête, avec le soleil brûlant, avec des pique-niques improvisés, des moments où il n'y a rien à manger, avec la fatigue, avec la menace des soldats, des méchants, des intégristes, avec ce maître auquel on ne comprend souvent pas grand-chose. Et puis finalement, Satan entra dans Judas, nous dit l'évangile selon Luc. Il y a donc quelque chose qui bascule. Ou bien il nous dit un peu plus loin, Judas, compté parmi nous, parmi les apôtres, donc parmi les 12, ayant obtenu part à ce ministère d'apôtre, d'envoyé par Jésus-Christ dans le monde, devenu le guide de ceux qui se sont saisis de Jésus, eh bien, a donc changé. Et donc il y a une insistance sur la liberté que Dieu nous donne dans ce témoignage, dans cette réflexion de Luc sur Judas. Dieu appelle, mais n'oblige pas. Il nous donne tout pour vivre en Christ, mais nous pouvons nous convertir, nous pouvons nous déconvertir. Et puis finalement, il existe peut-être deux raisons qui sont proposées à cette déconversion de Judas dans l'Évangile. La première leçon possible donnée, c'est la vénalité. On nous dit que Judas, il était un peu le trésorier de cette bande qui était avec Jésus, autour de Jésus, c'est lui qui tenait la bourse. Donc contrairement à ce qu'on dit, Jésus n'était pas dans une pauvreté totale, bien sûr, il fallait bien qu'il mange aussi, comme tout le monde, donc Judas était le trésorier, et il piquait dans la caisse. Alors on le voit intéressé par les 30 deniers, puisqu'un ouvrier était payé un denier par jour, ça fait un smig de salaire, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 1000 à 1200 euros par mois. Ça vaut quand même le coup de se baisser si on voit 1200 euros par terre dans la rue. Donc il se baisse et il les ramasse. Et finalement, ça correspond à une tentation, la tentation de Jésus lui-même, finalement. Quand, ayant faim, le diable propose à Jésus de transformer des pierres en pain. Et que Jésus répond, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Oui, certes, mais on vit de pain aussi. Et donc, il faut bien gérer ce matériel. Alors simplement, c'est une question de savoir qu'est-ce qu'on met comme priorité ultime dans son existence. Et Jésus nous dit, on ne peut pas à la fois adorer Dieu et Mammon, le dieu de l'argent. Et donc finalement, nous sommes tous dans cette difficulté de la gestion du matériel. Et nous sommes bien obligés de jongler avec ces priorités, bien entendu. Et donc, c'est une tentation qui traverse la vie de Jésus lui-même, c'est une tentation qui traverse la vie de Judas, et donc il est sage, effectivement, de nous demander, « Seigneur, est-ce moi ?» qui sommes choqués, finalement, mis en danger par cette tentation qui peut, en partie, nous déconvertir. Mais la deuxième tentation, peut-être, qui a pu déconvertir Judas, à part la vénalité, qui peut être effectivement un obstacle, c'est qu'on appelle Judas, on l'appelle Iscariote. Ce qui pourrait, selon certains, vouloir dire « sicaire ». C'était effectivement une bande de juifs activistes. Alors on pourrait appeler ça des résistants ou des terroristes, si vous voulez. Tout dépend le point de vue ou le côté dont on voit les choses. En tout cas, ils voulaient prendre les armes pour des actions violentes et bien pour résister au pouvoir romain et chasser les Romains en dehors du royaume d'Israël. Et donc il y a un rêve de prise de pouvoir, un rêve de domination politique. Et effectivement, c'était une question, quand on voit Jésus, là encore, tenté par le diable, il est amené sur une haute montagne, et puis le diable, c'est-à-dire en fait la tentation à l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire ce qui est satanique, potentiellement, dans le cœur de Jésus, lui promet de régner sur toutes les nations, d'avoir les pouvoirs, d'avoir la domination sur le monde. Alors Jésus résiste à cette tentation, mais on la voit aussi se manifester, si vous voulez, dans le dimanche des rameaux, la foule des rameaux, qui acclame Jésus comme roi, qui s'attendent à le voir prendre le pouvoir à Jérusalem, et Jésus qui se précipite pour une pure action spirituelle, finalement, en purifiant le temple, en chassant les marchands du temple, pas ceux qui font une brocante ou une vente de livres comme le foyer de l'âme en fait régulièrement ici, bien sûr, parce que nous n'achetons pas notre salut à la brocante ou à la braderie de bouquins, mais la question, c'était d'acheter son salut auprès de Dieu. Enfin bref, Jésus prend une pure action spirituelle, disant « ma maison est une maison de prière » et finalement, il se défile de cette responsabilité politique en disant « mon royaume n'est pas de ce monde ». Et donc, finalement, Judas peut avoir ainsi une sorte de déconversion à cause de cette type de Messie que pouvait incarner Jésus. Pour Judas, l'espérance de Jésus comme Messie, comme Christ, est déçue parce que son Christ ne cadre pas avec le Christ qu'incarne Jésus. Malheureusement, il peut arriver aussi que nous perdions la foi, que nous perdions notre énergie vitale à cause de notre théologie. Parce que notre théologie ne cadre pas avec la réalité, ne cadre pas avec ce qui nous arrive, et donc ça nous fait perdre la foi. Étant trop fixé finalement sur nos propres opinions, notre conception de Dieu, notre conception du salut, notre lecture de la Bible, nous perdons la foi. Et effectivement, il y a plein d'athées qui disent « mais je ne crois pas en Dieu parce que s'il y avait un bon Dieu, ça ne serait pas comme ça. Ben, » on est complètement d'accord avec eux. Ce Dieu auquel ils ne croient pas, nous n'y croyons pas non plus. Donc finalement, il y a, je crois, là encore une bonne raison de perdre la foi quand on est persuadé que Dieu, c'est l'idée qu'on se fait de Dieu. Donc finalement, ces deux raisons, finalement, d'abandonner, de trahir et de tuer Jésus-Christ en nous-mêmes, comme Judas, eh bien, c'est un peu les mêmes, finalement. Aimer l'argent plus que le Christ et aimer l'argent plus que l'amour, plus que l'espérance, plus que la foi, plus que Dieu, c'est un peu s'adorer soi-même, finalement, sa dimension finie de notre être. Et puis aimer sa propre religion, ses rites, sa théologie, plus que Dieu lui-même, la transcendance, l'inconnaissable. Dans les deux cas, c'est tuer le Christ. Dans les deux cas, c'est tuer cet élan de vie, cette source de vie. Dans un sens, c'est se tuer soi-même, c'est tuer quelque chose du meilleur de soi-même, cette sorte de dynamique de vie éternelle qui est en nous, comme Judas, à la fin de l'histoire, eh bien, va mourir. Donc il y a là, effectivement, une leçon terrible dans l'Évangile, que nous avons entendu dans cette lecture de l'Évangile selon Matthieu, mais qu'on peut aussi trouver dans les synoptiques aussi, Jésus disant « Il aurait mieux valu qu'il ne soit pas né, celui qui me trahit. » Alors évidemment, c'est incompréhensible si l'on lit cela comme parlant de l'homme historique, Judas, puisque l'Évangile, tout l'Évangile, nous dit que toute personne humaine est chéri par Dieu et jamais ne sera abandonné. Jésus nous raconte avec la parabole de la brebis perdue que même la plus perdue des brebis perdues est digne du Christ tout entier, que le Christ abandonne le reste, tout le reste de l'humanité pour la chercher elle seule et qu'il finira par le retrouver, nous dit Jésus. Donc c'est incompréhensible si on prend cette parole comme parlant du Judas historique, mais en fait, ça prend sens pour nous-mêmes, pour ce Judas qui est à l'intérieur de nous. Oui, mieux vaut que cette dimension-là, cette dimension de désespérance, cette dimension de déconversion, cette dimension d'abandon du meilleur de nous-mêmes, de manque d'espérance en nous-mêmes, finalement, qui peut conduire jusqu'au suicide, comme Judas. Abandon de la source même, de la vie, du meilleur de la vie. Ben, mieux vaut que cette dimension-là, effectivement, ne naissent pas à l'intérieur de nous. Et donc, il y a un appel à y travailler avec Dieu, en nous, sachant que Dieu est à nos côtés, pour que cela ne prenne pas naissance en nous, ou que ça soit éradiqué, si par hasard c'est venu. Et donc, ça permet un retour à cette question, « Seigneur, est-ce moi, ce Judas ?» Question posée en confiance à Dieu, en Christ, sachant qu'il nous aime, bien sûr, et qu'il est avec nous pour rechercher et convertir Judas, convertir même la plus perdue des brebis perdues. Et pour cela, eh bien, il nous propose de partager la scène avec lui, et il nous donne de sa propre main une nourriture pour amener à la vie, pour nourrir le meilleur de nous-mêmes. Voilà, finalement, je pense, la première leçon qui nous est proposée dans, par exemple, la leçon de Luc. La deuxième leçon, plus terrible encore, peut-être, se trouve dans l'Évangile selon Jean. Judas a toujours été, par nature, un diable, c'est-à-dire en fait une source de chaos, une source d'éparpillement, d'émiettement du meilleur, émiettement de la vie, source de division entre les humains, source de déconstruction de notre être et de notre vie et de la société. Et pourtant, nous dit Jean, Jésus a choisi même Judas, finalement. Et donc cela veut dire que même si nous étions à 100% Judas, le Judas de Jean, le Judas satanique, ce qui n'est quand même pas le cas, on est un peu nul, d'accord, pour la repentance, mais n'exagérons pas quand même. Donc même si nous étions 100% pur Judas, le Judas de Jean, eh bien Dieu s'intéresserait quand même à nous. Cela ne l'empêcherait pas de nous appeler, de chercher à nous enseigner, de nous appeler à le suivre et même de nous envoyer dans le monde porteurs du meilleur et de nous nourrir de sa propre main pour essayer de nous aider. Alors Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits et qu'en nous, il y a à la fois un enfant de Dieu, source d'une bonne créativité, source de salut pour ceux qui nous entourent et pour le monde, et puis aussi un être satanique qui fait du mal, qui blesse les autres, qui gâche la vie, qui gâche ce monde. Oui, certes, Dieu sait que nous sommes pétris de cette humanité imparfaite. Eh bien, cette leçon de l'Évangile selon Jean nous dit que Dieu assume. Il assume le fait que le royaume de Dieu progresse avec une humanité imparfaite. Mais finalement, on dit qu'il y a le gentil Évangile, le Dieu qui pardonne et qui aime en Jésus-Christ, et le méchant Ancien Testament. C'est pas du tout vrai, parce que finalement, c'est aussi la leçon du déluge et de l'alliance avec Noé, Dieu assumant une humanité imparfaite, une humanité qui est à la fois bonne avec Noé et méchante avec Noé aussi. Et donc oui, Dieu assume tel que nous sommes et nous aime. Et le salut en Jésus-Christ, c'est bien cela. La troisième leçon est moins habituelle à nos oreilles, et pourtant elle est bien présente aussi à travers les évangiles, en particulier les évangiles selon Matthieu et selon Marc. Ils ne disent pas un mot de négatif contre Judas. Et Jésus l'appelle même « mon ami ». Et il lui dit « mon ami, ce que tu es venu pour faire, fais-le ». Et donc il envoie Judas en mission, le livrer. Livrer Jésus au Sanhédrin, aux autorités. Et jamais ils ne disent que Judas est diabolique, comme Jean. Ils ne disent pas qu'il s'est déconverti, comme Luc. Non, Matthieu et Marc disent que Judas, effectivement, a livré Jésus. Avec un verbe qui est en fait assez ambigu. Livrer, ça ne veut pas forcément dire trahir ou vendre. Ça peut vouloir dire livrer, comme on livre un colis-poste, qu'on livre un message. Et donc, effectivement, ça peut être compris d'une manière tout à fait positive, comme si Judas avait mission, d'accord avec le Christ, envoyé par Jésus, de transmettre l'Évangile, de transmettre le Christ aux autorités, qui sans doute auraient pu suivre, eh bien, se convertir à Jésus comme Christ, et donc que l'ensemble d'Israël se convertisse. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans un évangile, l'évangile selon Judas, dont nous avions entendu parler par Irénée au IIe siècle, et qu'on a retrouvé dans des fouilles archéologiques il y a quelque temps, où donc Judas est un des apôtres, et même l'apôtre le plus proche de Jésus, le plus avancé de Jésus, et qui se voit effectivement confier la mission de mettre Jésus aux mains des autorités juives et romaines pour que Jésus puisse sauver l'humanité et hâter ainsi la venue du royaume. Alors Albert Schweitzer pensait que Jésus lui-même y croyait finalement, que par sa mort peut-être, ou en tout cas qu'à temps qu'il pourrait ainsi hâter la venue du royaume à travers ce dur chemin. Je ne sais pas si Jésus lui-même y croyait, c'est une question qu'on peut se poser, le Jésus historique, mais en tout cas, ça peut être la leçon qui est donnée donc par Matthieu, par Marc. Alors on voit à la fin le Judas qui va se suicider. Mais on le voit dans ce récit, il ne se suicide pas parce qu'il est triste d'avoir trahi, mais simplement que les choses ne tournent pas comme il l'avait espéré, attendu, comme il le pensait. Alors il pensait probablement que le Sanhédrin et Pilate auraient compris que Jésus était le Christ et qu'il se convertirait. Alors quelle leçon pourrait-on tirer de cela? La leçon de cet évangile, c'est d'annoncer le Christ avec courage, alors pas de le vendre comme Judas, mais de le donner, de le transmettre, de le livrer. Même si, comme l'annonce Jésus finalement, cela semble mal reçu en premier lieu, et Jésus annonce « si moi ils me maltraitent, vous aussi ils vous maltraiteront », mais de semer avec confiance, de semer la vie, de semer une vie que nous savons être plus forte que la mort, plus forte que toutes les négativités, plus forte que la haine, et donc la semer en confiance, comme à perte, comme un semeur, de le semer en ayant confiance que de ces semailles de vie dans le monde, eh bien, il sortira de toute façon le royaume de Dieu demain. Amen. Alors je vous propose de chanter donc dans le recueil le cantique 254, Gloire à ton nom, ô Dieu de paix. Vous pouvez prendre place pour quelques petites annonces. D'abord, un grand merci à Aurélien Péter qui est là-haut à la tribune d'orgue et qui nous réjouit donc par sa musique et qui donne chair, sentiment à ce qui serait sinon trop cérébral. Demain, vendredi saint, il y a un culte à l'oratoire à 19h, puisque nous avons donc cette sympathique et fraternel usage de se partager cette semaine sainte, le jeudi saint ici et puis le vendredi saint à l'oratoire, donc demain à 19h. Et puis le dimanche de Pâques, eh bien dans la communion des cœurs, ici même à 10h30, et puis à l'oratoire à 10h30 aussi. Vous le voyez, il y a la scène, pour le jeudi saint c'est tout à fait la moindre des choses, j'allais dire. Bien entendu, toutes et tous sont invités chaleureusement à participer, qu'ils soient baptisés ou non, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur foi, dès qu'ils ressentent un appel à le faire, eh bien, ils y sont chaleureusement invités, bien sûr, mais si vous ne désiriez pas communier, c'est possible aussi, tout le monde n'est pas sensible à ce geste, eh bien, vous pouvez tout à fait rester à votre place ou bien vous mettre dans le cercle néanmoins et passer le plat et la coupe. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu. L'offrande est un geste, effectivement, qui replace le spirituel au-dessus du matériel. vers toi, Dieu notre Père, monte en ce jour notre louange et nos actions de grâce pour Jésus-Christ, ton Fils, à qui tu as donné ton nom. Par sa vie, il nous a montré l'unique chemin de la fidélité. La veille de sa mort, il nous a laissé la nourriture qui est vraiment notre salut, son corps et son sang. Par ce vin et ce pain nouveau, nous demeurons en communion avec lui et demeurons en lui, nous demeurons en toi. C'est pourquoi, avec tous les chrétiens rassemblés en cette semaine de Pâques, nous disons « Saint, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu, toute la terre est remplie de sa gloire. » Alors voici ce que l'apôtre Paul a reçu du Seigneur et qu'il nous a transmis à propos de la scène, selon sa première lettre aux Corinthiens. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, nous dit-il, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Alors je vous propose de poursuivre par un temps de louange avec le psaume 36, la deuxième strophe, donc du psaume 36, « Que précieux est ton amour ». Dieu notre Père, tu es la source de la vie, tu es la source de l'amour. Voici le pain et le vin. Que ton souffle vivant nous donne maintenant communion au corps et au sang de Jésus-Christ. Communion à ta parole et à la vie éternelle par ton Fils. Veuille donc, par l'action de ton Esprit, nous donner d'être en communion avec lui. Et comme la nourriture fortifie notre corps, comme le vin réjouit notre esprit, que le pain de ta parole nous donne la force qui vient de toi, et ta vie, la vie du Christ, nous donne la joie que tu veux pour nous. Que ce repas nous annonce le royaume que tu nous charges de proclamer, de bâtir, et unis dans une même foi en toi, en communion avec tous les chrétiens de toutes les églises partout dans le monde, eh bien nous te confions cette prière que le Christ nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Seigneur, je ne suis même pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table. Mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Venez, nous dit Jésus-Christ, venez, car tout est prêt. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour chacune et pour chacun de nous. Jésus nous dit « en vérité, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donne, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même, a marqué de son sceau. » Jésus nous dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui a foi par moi n'aura jamais soif. » Béni sois-tu pour ce repas d'action de grâce. Que cette communion renouvelle en nous l'amour de nos frères et sœurs et nous fasse vivre en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, pour les siècles des siècles. Amen. Allez en paix dans la joie de notre Seigneur. Petits enfants, nous dit l'apôtre Jean, n'aimons pas seulement en belles paroles, mais en action et en vérité, en fidélité. À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Alors nous aussi, nous pouvons donner quelque chose de notre vie pour nos frères et sœurs. Alors je vous propose de prendre le psaume 116, « J'aime mon Dieu car il entend ma voix », les trois premières strophes, pour nous préparer à recevoir la bénédiction qui nous vient de la part de Dieu et qui nous envoie dans le monde comme des apôtres. 116, les trois premières strophes. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, béni sois-tu, ô Dieu, source de vie. Amen.